Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Au Capi Service, à l'occasion de la Semaine des Nations Unies, est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Applaudissez très très fort. Est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Nous sommes là en direct de Boboto, du chapiteau de Boboto, à l'occasion de la Semaine des Nations Unies. Et voici les thèmes que nous allons aborder tout à l'heure. Nous allons parler de la protection des droits de la femme et des filles à élever en République démocratique du Congo. Et le deuxième thème, nous allons parler des responsabilités de différentes institutions par rapport à l'avènement d'une paix durable en République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe de production, Hippolyte Kapanga, Tati Mapoukou, David Fundi, Mado Sakaji, Jean-Marc Matwaki, Jonathan Fouanani. Merci pour le Facebook Live. Merci à vous tous qui nous suivez en direct sur Facebook. Et à vous tous qui êtes là, nous vous disons merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Applaudissez pour vous-même. Et faites le maximum de bruit! Bienvenue à tous dans cette émission spéciale à l'occasion de la Semaine des Nations Unies. Bien, sans plus tarder, nous allons aborder notre premier thème. Nous allons parler de la protection des droits de la femme. Quelles sont les avancées et défis à relever en RDC? Bien, la Journée des Nations Unies est célébrée chaque année à la date du 24 octobre, jour de l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Et pour cette 78e célébration, le thème retenu est le suivant. Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. Alors, dans le secteur des droits de l'homme, quelles sont les avancées et défis concernant les droits de la femme? Qu'en est-il de l'intégration des principes des droits humains dans les systèmes éducatifs congolais? Eh bien, ce sont ces différentes préoccupations ou thématiques que nous allons aborder tout de suite avec nos invités. Alors, Madame Charlotte Sylvie, vous êtes coordonnatrice du Programme national des droits des femmes et du genre. Merci de prendre votre micro. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Monsieur Saïp Si, vous êtes spécialiste de programme à l'UNESCO Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans ce programme spécial à l'occasion de la Semaine des Nations Unies. Alors, Madame Charlotte, la première question est de savoir quel état des lieux vous faites par rapport aux droits de la femme. Quelles sont les avancées qui ont été enregistrées jusque-là?
Merci pour la parole. Merci de me donner l'opportunité pendant cette Semaine des Nations Unies de parler de la problématique de la promotion et la protection des droits de la femme. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est l'entité au sein de la MONUSCO en RDC qui travaille, qui a pour mandat de promouvoir et de protéger les droits de la personne humaine. Et nous comprenons par là les hommes, les femmes, les filles et les garçons. Ce matin, je vais brièvement, parce que la thématique est tellement large que nous ne pouvons pas parler de tout, mais nous allons faire un effort de présenter la situation des droits de la femme. Alors, en dehors de 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'année 1975 a été l'année mondiale pour la femme. Et à partir de cette période, beaucoup de choses ont été faites par les États, parce que nous parlons des Nations Unies, et les Nations Unies, c'est l'ensemble des États dans le monde, voilà, qui ont bien voulu faire partie de cette organisation. Les États ont commencé à prendre un peu plus de temps, mettre un peu plus d'accent sur leurs actions en faveur de la femme. Et nous avons la déclaration de Beijing qui reconnaît publiquement qu'il est nécessaire de prendre en compte les besoins de la femme, de mettre en place des politiques pour favoriser le développement économique de la femme, la participation de la femme et tous les droits humains qui sont vraiment humains, mais qui le sont aussi pour la femme au même titre que l'homme. Et en dehors de cette déclaration de Beijing, nous avons un ensemble de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, spécifiquement sur la femme, la paix et la sécurité. Donc, ces avancées au niveau global, au niveau mondial, ont donné des opportunités en RDC de parler un peu plus, d'élever la voix, d'améliorer les politiques, les actions, les programmes, les stratégies pour mieux promouvoir et protéger les droits de la femme.
Alors, Madame Charlotte, prenons les cas spécifiques de la RDC. Est-ce qu'on peut dire quelles sont les différentes avancées qui ont été enregistrées par rapport aux droits de la femme?
Voilà. Au niveau de la RDC, donc, nous avons déjà la constitution de la RDC qui a des dispositions en faveur de la protection des droits de la personne humaine et de la femme spécifiquement. Nous pouvons, au niveau du gouvernement, parce qu'il y a les actions du gouvernement, il y a les actions législatives et les actions judiciaires. Nous avons le code de la famille qui a été révisé et qui a pris en compte les droits spécifiques de la femme dans le foyer, dans le mariage et dans la vie économique et sociale. Nous avons la loi sur les violences sexuelles qui est venue ajouter au code pénal congolais les dispositions spécifiques sur les violences sexuelles et la loi sur la parité et aujourd'hui la loi sur les réparations, parce que nous savons que la majorité des victimes de violences sexuelles sont les femmes.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Il est temps d'accorder la parole à M. Saïd Bassi, spécialiste de programme UNESCO Kinshasa. Préparez déjà vos questions, le micro va circuler tout à l'heure. Vous aurez l'occasion, l'opportunité de poser vos questions aux intervenants. Monsieur Saïd, si, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec vous, nous allons parler de l'aspect intégration des principes des droits humains dans les systèmes éducatifs congolais. Allez, pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, merci beaucoup. Encore bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio Okapi et ainsi qu'au public ici présent. Comme vous le savez, les agences, le système des Nations Unies essaie d'appuyer les pays à atteindre l'agenda 2030 avec, comme on le voit ici, les 17 objectifs de développement durable. Mais il y a un objectif, l'objectif numéro 4, est exclusivement consacré donc à l'éducation. Et dans cet objectif développement durable numéro 4, qui essaie d'assurer donc la qualité de l'éducation et la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, il y a une cible, la cible 4.7, qui recommande aux pays de faire en sorte que tous les élèves, les apprenants, acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation, en faveur du développement et des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion de la culture de la paix, etc. Donc, partant de cela, l'UNESCO, conformément à son mandat donc, d'appuyer la mise en œuvre de cet objectif de développement durable numéro 4 dans les pays, nous essayons d'intégrer ça dans les politiques. Et l'intégration passe essentiellement autour de 6 points.
Lesquels?
D'abord, il y a la question de la sensibilisation. La sensibilisation des acteurs éducatifs autour des principes et des obstacles liés à la promotion des droits humains. L'autre aspect, le deuxième, c'est la formation, le renforcement de capacités. Comment faire aujourd'hui pour renforcer les capacités des enseignants surtout, qui sont la clé du succès de l'amélioration de la qualité dans le système éducatif, comment faire pour former les enseignants en continu par rapport à ces principes et ces défis liés à la promotion des droits humains. Le troisième, j'essaie de résumer comme ça par rapport au thème de cette journée. Le troisième, c'est aussi le partage de connaissances. Comment valoriser certaines bonnes pratiques, donc l'UNESCO essaie d'appuyer, comment valoriser certaines bonnes pratiques qui sont menées au niveau national, mais aussi au niveau international.
D'accord, merci. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, au Capi Service, nous sommes en direct du chapiteau du Cercle Boboto, à l'occasion de la Semaine des Nations Unies. Nous allons recueillir les questions dans la salle, et les thèmes de la semaine, comme disait tout à l'heure au début, agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès, la réponse de nos communautés. Y a-t-il déjà des questions dans la salle par rapport à tout ce que nos intervenants viennent de dire? Des questions dans la salle, voilà. Tati, il y a déjà quelqu'un de l'autre côté, une autre personne là-bas. Voilà, il y a déjà quelques personnes qui veulent poser la question. Rapidement, tu peux remettre le micro. Vous allez juste vous présenter et poser la question. Bonjour.
Je suis M. Chris Mwakuya, étudiant en médecine à l'Université de Kinshasa. Je suis président de la Fondation Chris Ngal et défenseur des droits des femmes. Ma question est adressée à Madame Charlotte. Madame, vous êtes la coordinatrice du JAR au BCNDH. Alors ma question est de savoir quelles sont les stratégies concrètes que les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme pourraient mettre en place pour la vulgarisation du code de la famille. Parce que la RDC a mis en place plusieurs instruments juridiques visant à éliminer les violences à l'égard des femmes. Alors, quelles sont vos stratégies que vous pouvez, étant organisation au niveau des Nations Unies, que la RDC pourra appliquer pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme.
Merci, monsieur, pour la question. Le suivant.
Merci beaucoup pour la parole qui est accordée. Je suis monsieur Feli Mwanza, président national de l'ONG ASBEL, JEKID RDC. Ma question s'adresse à madame, la première intervenante.
On va prendre d'abord une série de 5 questions. Les intervenants vont répondre et ensuite on prendra la deuxième série. Allez-y.
Qui était en train de répondre à votre question sur les réalisations avancées dans notre pays en RDC sur les droits de la femme. Madame a dit qu'il y a des avancées significatives que notre pays, la RDC, prévoit, notamment dans la Constitution. Il y a plusieurs dispositions qui sont déjà prises. Elle a énuméré les codes des familles, ainsi que la loi sur les violences sexuelles. Alors, j'allais demander à madame de nous dire si il y a des mécanismes d'accompagnement qui sont mis en place pour que toutes ces dispositions soient effectives. Merci beaucoup.
Merci, monsieur. Le suivant. Tiens, comment, il n'y a pas de dames dans le premier groupe, là? Tati, est-ce qu'on peut remplacer les deux derniers messieurs par deux dames? On peut ajouter les dames? Y a-t-il des dames qui veulent s'exprimer? Oui, elles sont là. Merci de passer de l'autre côté. Faut respecter les gens. Allez-y, monsieur.
Merci, monsieur Hilaire Kaloutou, président national de l'association des parents des enfants handicapés mentaux en RDC, en APEMCO, en sigle. Je vais tout droit pour le monsieur qui a évoqué le cas de l'éducation.
Oui.
Alors, quand il dit plutôt que le bilan est positif pour l'éducation, particulièrement pour les enfants, qu'est-ce qu'il pense des enfants handicapés? Est-ce que ces enfants-là sont à l'école? Est-ce qu'ils sont discriminés, ces enfants-là? S'ils sont à l'école, est-ce que les conditions sont favorables pour eux au niveau primaire, secondaire, comme au niveau universitaire? Est-ce que vraiment les enfants handicapés sont là ou ils sont toujours marginalisés, abandonnés aux mains de leurs parents? Voilà un peu ma préoccupation. C'est celle-là. Est-ce qu'on a des statistiques des
avec
enfants.
Avec la gratuité de l'enseignement.
Oui. Ouais. Oui, avec la gratuité de l'enseignement. Est-ce que l'UNESCO, les Nations Unies, ont des statistiques pour les enfants handicapés dans des écoles? Je vous remercie.
Merci, monsieur. Le suivant.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Jules Djouma. Je suis étudiant à l'UNIKIL. Alors, je vais être clair avec ma question, parce que la thématique aussi est très claire, qui parle de la protection de la femme avancée et des filles. Alors, avant, j'ai deux volets dans ma question. Le premier, c'est d'abord concernant la fille. C'est-à-dire, pour être une femme, on ne naît pas femme, a dit un auteur, mais on devient femme. Alors, la fille, est-ce que parmi les défis et les avancées, est-ce que vous avez pris en compte la place de la fille? Parce que nous voyons, par exemple, bien sûr qu'il y a la gratuité, mais il y a les filles qui étudient dans les mauvaises conditions. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, c'est la femme. Nous voyons qu'il y a des avancées significatives en RDC, mais nous voyons rien que dans la représentativité féminine sur la liste des candidats retenus à la présidentielle, il y a 4% de femmes. Alors, en quoi est-ce que les Nations Unies peuvent aider cette situation? Merci.
Bien, merci. Le suivant.
Je m'appelle J.R. Bouwela. Je suis coordonnateur de l'ONG GED, Initiative pour la gestion durable de l'environnement et la défense des droits humains. Madame Charlotte, parce que vous avez parlé de la protection des droits de la femme, et vous savez la réalité en RDC est que ce sont les pesanteurs socioculturels qui priment sur les droits.
Un exemple. Oui.
La RDC, ce n'est pas Kinshasa. Et quand vous arrivez même ici à Kinshasa, il peut y avoir, au niveau des familles, s'il y a un homme qui meurt, je pense que la femme est privée des droits d'héritage. À un certain moment, madame, avant-hier, j'ai trouvé un couple. Un couple et la femme a écopé des coups. Ce sont des violences domestiques. Les violences domestiques qui n'ont même pas un cadre légal en RDC. Et vous certifiez cela qu'il y a des avancées positives pour le respect des droits des femmes. Même au niveau des quotas, quand vous dites, vous parcourez la loi sur la parité. Quand on dit parité, on dit 50-50, je pense. Et quand on vous donne déjà un quota de 30%, ou alors après évaluation, vous allez certifier aujourd'hui que la parité est acquise en République démocratique du Congo. Deuxièmement, il y a les problèmes. Bon, le deuxième intervenant, que j'oublie le nom, je suis désolé pour cela.
Monsieur Saïp, si.
Monsieur Saïdi, c'est ça?
Saïp.
Saïp, monsieur voilà. Saïp, excusez-moi.
De l'UNESCO.
Oui, vous avez parlé des droits humains dans le système éducatif. En quittant ma maison pour arriver ici, j'ai trouvé un enfant de moins de 7 ans qui est chassé d'une école.
Parce qu'il n'a pas payé les frais.
Parce qu'il n'a pas payé les frais. Parce qu'on parle des droits humains. Cet enfant, c'est un humain. L'enfant n'est pas accompagné. Et je connais l'école. L'enfant n'est pas accompagné. Et
un enfant de quel âge?
Moins de 8 ans.
Moins de 8 ans.
L'enfant n'est pas accompagné. L'enfant est chassé de l'école. Ses parents savent que l'enfant se trouve au niveau de l'école. Un, cet enfant va rater la matière et les parents seront obligés de payer les frais. Est-ce qu'en payant les frais, l'enfant va recouvrir ses droits de la formation passée ou ils vont s'en foutre, ils vont continuer la formation?
Certainement,
Certainement
qu'il est dans une école privée. Hein.
Vous pouvez certifier aujourd'hui. Nous parlons des droits humains. Je ne parle pas de la catégorisation des écoles. Ouais. Même si ces écoles privées, ce sont des écoles qui sont sous la primaire, sous l'emprise de l'État congolais. Et ces écoles sont comment réglementées. vous pouvez certifier aujourd'hui que l'intégration des droits humains en République démocratique du Congo dans les processus électoraux est effective, oui ou non? Merci.
Merci, monsieur. Madame.
Merci. Je suis Françoise Nama. Je suis membre de la plateforme de Debout Bilégué, initiée par l'Union européenne. Mais je suis activiste sociale. J'ai deux questions, si vous allez me le permettre. La première question, c'est adressée à Monsieur Saïp.
Oui.
Je suis très heureuse quand il parle de droit à l'éducation. Particulièrement, j'étais sur le terrain au niveau du Kasaï, Kasaï central, quand la question de la gratuité de l'enseignement a commencé. Ce que j'aimerais savoir, c'est le droit à l'éducation implique aussi le droit d'étudier dans de bonnes conditions. J'étais très choquée de voir l'état dans lequel les enfants de ces deux coins, particulièrement où j'étais, étudient, notamment une classe qui est construite juste avec de feuilles de palmier.
Il n'y a pas de bancs.
Et d'autres, c'est vide. Il n'y a pas de bancs. Ce sont de blocs de sable sur lesquels ils se mettent. Alors, j'aimerais savoir, quand on parle de droit à l'éducation, est-ce que le droit est mieux garanti quand on est dans la capitale ou dans certaines provinces et dans d'autres, non? La deuxième question est adressée à Madame Charlotte. Madame Charlotte, quand on parle de droit ou de la promotion de droits de la femme, on voit aussi son droit à la participation, ou je peux me baser plus sur la participation politique. Vous avez évoqué les avancées juridiques qu'il y a eu jusque-là, mais est-ce que vous pensez que jusque-là la question est gagnée par rapport au genre, par exemple? Je veux dire, dans la participation politique de la femme, vous pensez que ce qui est prescrit par la loi est vraiment dans l'application? Parce que personnellement, je pense que la notion de genre est comme une plante qui vient de germer et qui cherche encore à s'enraciner. J'ai dit et je vous remercie.
Merci, madame.
Merci. Je suis madame Bibiane Mamengi Kanyinda, membre de la dynamique femme. Ma question est posée au deuxième intervenant. Là où il a parlé de l'intégration des systèmes des droits humains à l'éducation. Et dans le 6 points qu'il a cité, il a parlé au deuxième point, les renforcements des capacités des enseignants. Je vais savoir qu'ils nous disent, est-ce que c'est déjà commencé ou où en sommes-nous? Merci.
Merci, madame. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, merci d'applaudir très 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 fort pour toutes ces questions. Au Capi Service, nous sommes en direct du chapiteau de Boboto à l'occasion de la Semaine des Nations Unies du 23 au 27 octobre. Bien, alors, Madame Charlotte, à vous la parole.
Voilà, je suis très intéressée par les réactions des participants. Premièrement, le BCNUDH a participé à la révision de ce code-là à travers la RDC. Parce qu'il y a eu des ateliers de relecture, de révision, d'intégration de nouvelles données et consorts. Deuxièmement, quand le code a été révisé et repromulgué, le BCNUDH a travaillé avec les autres acteurs, particulièrement le ministère du Genre, pour le vulgariser. C'est-à-dire, nous avons organisé des sessions publiques où les nouvelles dispositions étaient expliquées aux gens. Cela a été fait sur les médias, un certain nombre de radios qui ont une couverture nationale l'ont fait, et c'est un travail continu. Donc, l'une des stratégies est de prévoir, de budgétiser. Quand je dis budgétiser, ça ne veut pas toujours dire des finances, mais de prévoir dans le plan de travail les actions de vulgarisation, pas seulement du code de la famille, mais des textes juridiques en général. Et nous attelons à cela et nous nous assurons que tout au long de l'année, qu'il y ait des séances. Le plus souvent, nous le faisons dans des écoles, et même pour les 16 jours d'activisme, ce sera fait dans les écoles. Mais nous l'avons aussi fait au niveau des points focaux du genre dans les ministères. Et nous l'avons aussi fait avec les leaders communautaires et les leaders traditionnels. Donc, nous avons tout ce plan-là que, année après année, nous essayons de mettre en œuvre pour faire connaître ces nouvelles dispositions afin d'informer les femmes, mais aussi les hommes, de ces avancées et des façons d'appliquer ces nouvelles dispositions. Les mécanismes d'accompagnement pour la promotion des droits de l'homme, en fait, notre bureau travaille avec l'État congolais, avec les autres entités des Nations Unies, avec la société civile et même avec des individus pour promouvoir les droits humains. Ça se fait à travers une multitude d'activités. Nous pouvons parler des séances d'information, comme on est en train de le faire. Nous avons le renforcement des capacités. Nous avons le plaidoyer. Parce que pour arriver à modifier une loi, comme nous l'avons eu en 2006 avec la loi sur les violences sexuelles, c'était un travail énorme de plaidoyer. Alors, nous avons des activités d'assistance technique où nous soutenons des ONG pour que celles-ci facilitent l'accès à la justice pour les victimes, l'accès à l'assistance holistique, médicale, psychologique, juridique, économique. Nous avons des activités de renforcement institutionnel où certaines institutions de l'État sont soutenues d'une manière technique par des conseils ou par du matériel. En tout cas, beaucoup est fait pour accompagner le travail de promotion au niveau institutionnel et au niveau de la société civile. La jeune fille est prise en compte. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt que nous travaillons dans des écoles. Et même pour ces 16 jours d'activisme, nous allons soutenir les actions dans les écoles. Nous travaillons avec les écoles de filles pour informer la jeune fille. Nous travaillons avec les universités. Plusieurs actions sont prévues, sont déjà menées, mais prévues aussi pour informer la jeune fille. Nous avons soutenu plusieurs organisations de femmes qui soutiennent les jeunes filles. Nous avons travaillé pour les femmes dans le STEM, les STEM, les sciences, les techniques, mathématiques,
voilà. Technologie.
OK. Donc, nous avons des actions multiformes et même le code de la famille dont on a parlé, ce sont des cadres de travail favorables à la jeune fille. Un autre point spécifique, ce sont les violences sexuelles. Nous nous sommes rendus compte qu'une grande majorité, après les femmes, ce sont les filles qui sont victimes. Donc, en soutenant l'accompagnement gratuit des victimes de violences sexuelles, nous touchons la jeune fille. Et nous avons eu des programmes où la jeune fille n'était pas seulement accompagnée sur le plan légal, mais aussi à la rescolarisation.
Bien, merci d'encourager Madame Charlotte par vos applaudissements. Et nous allons donner la parole à Monsieur Saïp Si, qui est spécialiste de programme à l'UNESCO Kinshasa. On vous a posé une question, vous avez parlé que le bilan est positif dans le secteur éducatif. Quelqu'un a dit, qu'en est-il des enfants vivant avec handicap? Est-ce que ils sont toujours marginalisés ou les écoles tiennent aussi compte de leurs conditions?
Je voudrais, tout avant de répondre, peut-être dire, il y a des avancées, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a des défis qui restent. Les défis normalement, mais au moins, quand un train aussi arrive à l'heure, il faut dire que le train est arrivé à l'heure. Et par rapport à cela, je crois que pour venir à la question sur les personnes vivant avec handicap, d'abord, il y a cette volonté politique qui a été de mettre en place un ministère délégué. Ça, c'est une avancée. L'autre aspect, est du point de vue éducatif, il y a actuellement l'élaboration de la stratégie nationale de l'éducation inclusive qui permettra d'avoir des axes stratégiques, d'avoir une certaine vision à moyen et long terme et d'avoir des axes stratégiques qui permettraient d'identifier les activités qu'on pourrait budgétiser. Mais quand je parle des avancées, aujourd'hui, le type de construction des nouvelles écoles prennent en compte les dimensions liées à la mobilité, etc. Quand on construit aujourd'hui, dans tous les projets où on construit aujourd'hui des latrines aussi, on prend en charge cet aspect. Donc, quand je parle d'avancée, c'est à ce niveau. Maintenant, il faudrait renforcer le plaidoyer, et renforcer le plaidoyer nous amène à mettre en place certaines formations au niveau des enseignants pour sensibiliser, mais aussi au niveau de la communauté éducative. Quand je parle de la communauté éducative, je ne parle pas seulement au niveau primaire, associations des parents d'élèves, etc. Même jusqu'au niveau universitaire, il faudrait renforcer le plaidoyer. Et comme l'a rappelé la collègue de Bessendèche, il y a des avancées au niveau institutionnel, mais aussi au niveau opérationnel. Et cela me permet un peu de rebondir sur un peu les programmes que l'UNESCO essaie d'accompagner la RDC. Dans le programme, il y a les questions des principes sur que les droits ne sont pas indivisibles, il ne faut pas prendre ça, laisser de l'autre côté. Et il y a les questions d'égalité et de non-discrimination. Le troisième aussi aspect, c'est les questions de participation et d'inclusion. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie sectorielle de l'éducation, veut une éducation inclusive. Et d'ailleurs, l'agenda 2030 aborde dans ce même sens, pour ne laisser personne en rade, et le droit à l'éducation nous amène à ce que tous les enfants puissent et tous les jeunes puissent être scolarisés.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les enfants qui ont des handicaps, un enfant avec un handicap mental, est-ce qu'il y a des écoles spécifiques qui tiennent en compte de besoins, qui prennent en compte les besoins de ces enfants?
Il y a des écoles spéciales et spécialisées dans ce domaine, mais ces écoles, généralement, la demande, elle est forte. Elle est forte. Par exemple, il y a des écoles spécialisées par rapport à l'autisme, etc. Mais la demande, elle est encore forte. Et il manque encore aussi de spécialistes dans ce sens. Et c'est pourquoi nous essayons d'intégrer tous ces modules dans les programmes de formation des enseignants afin que ces aspects puissent être pris en compte. Je parle de la gratuité. La gratuité ne concerne pas seulement une frange de la population.
C'est toute
l'école primaire en RD Congo, pour l'école primaire, c'est gratuit pour tous les enfants. Mais il y a des offres diversifiées par rapport à l'école primaire. Comme vous le disiez, il y a des gens qui choisissent d'amener les enfants dans une école privée. Mais à l'école publique, tous les enfants, et c'est ce qui amène que les écoles sont... il y a une augmentation exponentielle du taux de scolarisation, je l'ai dit, il y a plus de 2,5 millions. Et ça impacte aussi sur la qualité de l'environnement d'enseignement-apprentissage.
D'accord, il y a une autre question. Il y a une dame qui nous a dit tout à l'heure qu'elle était au Kassai, dans la région du Kassai. Elle a vu dans quelles conditions les enfants étudient, assis à même le sol, les écoles, c'est en paille, etc. Avec ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées dans le domaine de l'éducation?
C'est ce que j'étais en train de dire. L'environnement d'enseignement-apprentissage, c'est l'autre maintenant facette qu'il faudrait améliorer, voir comment renforcer la qualité de l'enseignement-apprentissage. Je donne un exemple. Il y a scolarisation, mais il faudrait aussi... Il y a des classes de plus de 100 élèves. Ça impacte sur la qualité de l'éducation. L'enseignant même ne peut pas gérer tout cela. Donc, c'est l'autre revers un peu de la gratuité de l'éducation, mais les partenaires sont en train de travailler parce que je rappelle qu'il y a actuellement un document de priorisation qui s'appelle le pacte de partenariat qui met en place un dispositif de suivi des activités pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages dans toutes les provinces.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Je vois déjà qu'il y a les dames qui veulent poser leurs questions. Au Capi Service, nous sommes en direct du chapiteau du Cercle Bogoto. À l'occasion de la Semaine des Nations Unies, Alors, nous parlons dans cette première partie de la protection des droits de la femme et de l'intégration des principes des droits humains dans les systèmes éducatifs congolais. Bonjour, madame. Quelle est votre préoccupation?
Oui, je me présente d'abord, s'il vous plaît. Je suis mademoiselle Gloria Fotumo de l'Université chrétienne de Kinshasa.
Oui.
J'ai deux questions. D'abord, pour la première intervenante.
Madame Charlotte.
J'aimerais savoir quelles sont les actions que vous menez concrètement pour conscientiser la femme congolaise qu'elle a des droits, celle-là intellectuelle ou non, mais qu'est-ce que vous faites déjà pour conscientiser la femme au Congo sur ses droits? Également, je voulais savoir comment une femme victime de violences sexuelles, victime de violences conjugales, de discrimination de genre, peut dénoncer?
C'est tout?
Oui.
D'accord.
Et oui, comment elle peut dénoncer si elle est victime?
Merci, madame.
Également, j'aimerais poser une question à M. Saïd par rapport aux avancées. Son thème s'intitule l'intégration des principes des droits humains dans le système éducatif. Au fait, déjà, les avancées qu'il a citées sont des gestes louables, mais hormis ça, est-ce que vous avez inséré dans le programme de l'enseignement au Congo l'enseignement sur les droits humains?
Bien. Est-ce que on a intégré l'enseignement sur les droits humains dans les programmes de formation?
Dans les programmes de formation, oui.
Merci, madame. Oui, madame, vous prenez le micro, vous avez la parole. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. C'est madame Sophie Ngalula,
coordinatrice
de l'association qui s'occupe des enfants délaissés, handicapés et des filles-mères. Ma question s'adresse spécialement à Madame Charlotte. Madame Charlotte a parlé des droits des femmes. Mais je sais que parmi les femmes, il y a aussi des femmes handicapées. Nulle part dans son parler, dans son discours, elle n'a fait allusion aux femmes handicapées qui se trouvent être une catégorie spéciale et spécifique qui nécessite une attention particulière. Et du reste, il existe la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et il y a des articles spécifiques pour les femmes. Est-ce un oubli de sa part? Est-ce une omission volontaire ou bien on peut appeler ça discrimination comme d'habitude? Je dis et je vous remercie.
Merci, madame. Merci. Applaudir très, très, très fort. Merci pour toutes ces questions. Bonjour, monsieur.
Bonjour, je suis étudiant.
On vous appelle comment?
L'UTT Chekino, je suis étudiant en anthropologie, Université de Kinshasa.
Ok.
Je pose la question à madame
Charlotte.
Charlotte, qui défend les droits de la femme. Connaissons tous que la plupart de nos sociétés sont une société rurale. Donc les croyances et les pratiques sont au sommet. Ma question est de savoir, défendre les droits de l'homme dans cette société rurale n'est pas une acculturation ou une imposition de la culture qu'on est en train de l'imposer, en tenant compte des paradigmes qui conduisent l'erreur de la femme, c'est au champ. Je dis et je vous remercie.
Attends, réponds à la question là. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Vous dites même à Kinshasa, ici, c'est une société rurale. Même ici, là, c'est...
Non, je dis la plupart de nos sociétés...
Oui.
Sont construits des territoires qui sont rurales,
oui,
dont les croyances et les pratiques sont au sommet. Je voulais savoir, cette pratique des droits de la femme, pour elle, c'est une acculturation. Ça vient pas de nous. Or, quelle est la position d'une société qui dit que l'erreur de la femme, c'est au champ? C'est ça ma question.
D'accord, merci. acculturation, le rôle de la femme, c'est au champ, voilà.
Merci beaucoup. Elle va répondre à moi, tout c'est ça. Eric Tchassouma, étudiant en droit à l'UNICO. Alors, ma question s'adresse à M. Saïp. M. Saïp a parlé des avancées sur les secteurs éducatifs. Et nous savons bien que la République démocratique du Congo est vaste avec 26 provinces. Alors, nous voulons savoir s'il y a eu aussi des avancées dans les secteurs ou le coin caractérisé par des guerres, des catastrophes naturelles, entre autres, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et le Kwamutu. Merci.
Bonjour, monsieur.
Merci. Moi, c'est monsieur Patient Moulenda. Je suis psychologue clinicien au Programme national de la santé mentale. Ma question s'adresse à monsieur Saïb. J'aimerais savoir quelle est la place de la santé mentale dans l'intégration dont il est question.
Bonjour, je suis Andy Béa, étudiant à l'IFASIC. Et journaliste, j'exerce déjà pour le magazine 24 Critiques, médias en ligne. Ma question est pour Madame Charlotte. Je suis journaliste, donc je suis observateur. J'observe dans les quartiers populaires de la ville de Kinshasa que les femmes ne sont toujours pas au courant de leurs droits et de leurs droits. C'est-à-dire que elles sont encore victimes de violences basées sur les genres et violences sexuelles, toutes sortes de violences, mais ne savent pas qu'elles ont le droit d'accuser. Voilà. J'aimerais poser la question à Madame Chalon, s'il y a une stratégie que sa commission met en place pour éduquer ces femmes des quartiers populaires.
Quel quartier, par exemple? Vous parlez de quel quartier?
Je parle de Selembao, peut-être. Je parle de Kingasani. Je parle de ces quartiers-là. Voilà, exactement.
Bien, merci pour ces questions. Sous vos applaudissements, émission spéciale au Capi Service, au chapiteau de Boboto, à l'occasion de la Semaine des Nations Unies. Madame Charlotte, vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. On va y aller rapidement.
D'accord, merci.
Déjà, dans la première série, il y a eu d'autres questions auxquelles vous n'avez pas encore
répondu.
Allez-y.
Voilà, les actions pour conscientiser la femme congolaise sont déjà en train d'être menées. Je vous ai dit que lors des séances d'échange avec les femmes candidates, ce sont elles-mêmes qui ont émis les idées sur les problèmes qu'elles rencontrent. C'est déjà une façon d'être conscient de ses propres limites, de ses difficultés. Et en même temps, en se conscientisant, elles essayent d'apporter des solutions, comme par exemple des actions de solidarité entre les femmes, des actions de plaidoyer au niveau des institutions pour favoriser la parité, les quotas et consorts. Donc les actions sont en cours. Ce sont généralement les actions d'information publique, des émissions radio, des séances ciblées avec des groupes cibles. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que le travail est aussi fait avec les institutions afin d'avoir des cadres de travail institutionnels. Parce que les politiques changent en termes de personnes régulièrement. Mais quand il y a un cadre de travail, nous prenons l'exemple du groupe thématique genre. C'est un cadre de travail gouvernemental dans lequel les agences des Nations Unies se mettent avec la société civile et les institutions pour travailler sur la thématique du genre. Et dans ce groupe, il y a le groupe qui travaille sur la participation de la femme. Donc, ce cadre-là permet d'avoir des acteurs, mais aussi des outils pour continuer à informer les femmes, à les conscientiser, à leur faire connaître leurs droits. Et au sein de notre bureau, nous avons plusieurs actions, comme je l'ai dit, d'information publique.
Madame Charlotte, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le quota des 30% a été atteint?
Bon, le quota n'est jamais atteint parce que cette conscience-là doit s'accompagner avec la volonté politique et elle doit aussi s'accompagner avec des moyens financiers et matériels pour que les femmes qui sont la majorité des personnes à ressources réduites puissent accéder à un certain nombre d'actions qui demandent des ressources financières. Mais nous réjouissons quand même de cette prise de conscience au niveau de la CENI, au niveau du ministère, de cette nécessité d'augmenter ce quota, de trouver des stratégies au sein des organisations politiques et de la société civile pour augmenter la représentativité des femmes, mais aussi dans les postes nominatifs, il y a quand même des avancées en termes de chiffres. Voilà.
On vous a posé la question par rapport aux droits de la femme vivant avec handicap. Pourquoi vous n'en parlez pas? Est-ce que c'est un oubli?
Non, c'est plutôt, je vous l'ai dit au départ, il y a beaucoup de choses à dire et malheureusement, je n'ai pas cité ça. Mais sinon, le ministère délégué qui vient d'être mis en place est un partenaire de la MONUSCO, du BCNUDH, des Nations Unies. Et il y a un programme en cours avec ce ministère pour travailler pour les personnes vivant avec handicap. Et au sein de notre bureau, nous avons l'unité des réformes institutionnelles et de renforcement, voilà, des institutions qui travaillent avec ce ministère. Et généralement, quand nous organisons les activités, nous exigeons que les personnes à besoins spécifiques fassent partie de ces activités. Donc, ce n'est pas un oubli de cette catégorie, c'était juste qu'il y avait beaucoup de choses à dire.
Oui.
Voilà, je voudrais ajouter le point sur...
Il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce que vous faites pour conscientiser les femmes?
Oui.
Sur leurs droits, il y a certains quartiers où les femmes ne méconnaissent leurs droits.
La stratégie qui est utilisée, c'est les médias, la médiatisation. C'est vrai que tout le monde n'a pas accès à Internet, mais le plus souvent, le minimum, c'est la radio. Et nous ne manquons pas de saisir l'occasion auprès de Radio Okapi de faire connaître un certain nombre de choses. Et nous ne manquons pas d'aller dans des quartiers en dehors de la Gombe, ici à Kinshasa. Mais nous avons aussi les bureaux de terrain qui essayent de travailler dans les zones en dehors de la périphérie. Nous avons mis en œuvre plusieurs projets dans des villages très reculés de la capitale.
Bien, alors peut-être une dernière question parce qu'on va terminer cette première partie. Quelqu'un a dit tout à l'heure que nous sommes dans une société où la culture, la femme doit aller au champ. Quand vous venez parler de tout ça, est-ce que c'est une acculturation ou pas?
Mais je suis africaine, non? Moi, je suis africaine. J'ai ma cuisine, je travaille dans ma cuisine et je viens aussi parler avec Radio Okapi. Donc, il n'y a aucune acculturation. C'est juste que nous devons faire un effort de connaître qu'est-ce qui est bien pour nous. Quand je dis nous, je dis l'être humain. Nous devons comprendre. Si les hommes comprennent, c'est pourquoi aujourd'hui on parle de la masculinité positive. Si les hommes comprennent que si la femme travaille, elle ramène de l'argent à la maison. Donc, elle peut ramener plus. Elle fait le travail de la maison et elle fait le travail à l'extérieur, ça ramène plus, on peut payer les minervales aux enfants, on peut s'habiller bien, on peut investir. Il faut que les gens comprennent cela. Nous sommes Africains, nous parlons des choses des Africains, et nous avons eu des reines. Nous avons eu des reines qui ont dirigé l'Afrique,
oui,
qui ont dirigé des États, qui ont dirigé des royaumes, disons ça comme ça. Et nous en avons encore. La semaine dernière, une chef traditionnelle camerounaise est venue ici pour la réunion, la consultation des chefs traditionnels africains. Nous avons des chefs traditionnels et qui sont en train de militer pour réduire les violences faites à la femme, pour favoriser la masculinité positive. Donc, je dirais tout simplement que les êtres humains n'ont pas de race. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'État. L'être humain est universel. Et s'il est bon que l'homme se protège contre les coups, la femme aussi sent mal. Donc, elle doit aussi être protégée. Donc, ce n'est pas une acculturation, c'est un besoin vital pour nos sociétés.
les sociétés africaines comme les sociétés européennes.
Merci Madame Charlotte, sous vos applaudissements mesdames et messieurs. Alors on va terminer cette première partie avec Monsieur Saïp. Vous avez la parole. Tati, est-ce qu'on a du temps pour avoir encore 2, 3, 4 questions? Non, il n'y a plus. Monsieur Saïp, allez-y.
Oui, je vais très rapidement passer en revue et revenir sur le programme dont parlait la collègue Charlotte. Il y a tout récemment l'activité avec la CENI pour prendre en charge les personnes vivant avec handicap dans le processus électoral. Donc ça aussi, c'est des aspects. C'est un programme mis en œuvre par BCNDH, ONU Femmes et l'UNESCO. L'autre aspect, c'est les programmes. Il ne faut pas voir le programme des droits humains comme intitulé « droits humains » dans les emplois du temps. C'est pas comme ça. Généralement, c'est intégré par rapport aux matières de l'éducation à la vie courante. Donc, l'éducation à la vie courante, il y a différents modules. Donc, il y a des modules sur la citoyenneté, le module sur l'éducation à la culture de la paix, par rapport à l'éducation environnementale, il y a les droits humains. C'est comme ça que vous devez voir. Et dans la formation initiale des enseignants, c'est intégré. Dans la formation continue, je ne sais pas s'il y a des enseignants ici ou pas, il y a une plateforme qui existe où il y a des modules sur les droits humains. Donc ça c'est, et aussi pour les chefs d'établissement. Ça c'est le premier aspect. L'autre aspect est lié un peu aussi à l'inclusion et surtout au maintien des filles à l'école. Et tout ce qui est lié à la problématique violence basée sur le genre dans le milieu scolaire, etc. Il y a un vaste programme nos vies, notre futur et nos droits. O3, le programme s'appelle O3. Si vous avez même des applications, vous pouvez voir Hello Ado, Hello comme H-E-2-L-O Ado. Vous pourrez voir, il y a des milliers de jeunes de la RDC qui ont téléchargé ça, et il y a beaucoup de modules liés aux droits humains, à santé sexuelle, reproduction, à la lutte contre le VIH, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est des aspects qu'il faut noter. L'autre aspect, c'est, j'ai beaucoup apprécié la question par rapport aux enfants qui sont dans des zones de crise. Effectivement, quand on dénombre l'année dernière, il y a eu presque 800 écoles qui ont été impactées par rapport à différentes crises. Hein. Ça peut être des catastrophes naturelles, mais aussi des crises liées à l'instabilité sécuritaire, etc. Et ça a empêché à 320 000 enfants d'aller à l'école. Et par rapport à cela, il y a eu des initiatives du système des Nations Unies pour mettre en place des cours via les radios communautaires, les leçons via les radios. Dans les camps des réfugiés, il y a eu le programme condensé, et il y a aussi des enseignants volontaires qui ont été recrutés pour voir comment rassembler ces enfants qui sont dans des zones de crise pour assurer et garantir le droit à l'éducation. Je crois aussi ça qu'il faut noter, et cela montre que le système aussi des nations essaie aussi de trouver des solutions à côté donc du gouvernement de la RDC. Merci.
Bien, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Tonnerre d'applaudissements. Ainsi, nous mettons cette première partie de l'émission Capi Service qui a porté sur la protection, qui s'est intéressée à la protection des droits de la femme. Quelles sont les avancées des filles arrivées en RDC? On a parlé également de l'intégration des principes des droits humains dans les systèmes éducatifs congolais. Merci Madame Charlotte Sylvie, coordonnatrice du programme national des droits des femmes et du genre au BCDNUH. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? Nous disons merci M. Philippe Sy, spécialiste des programmes à l'UNESCO Kinshasa, sous vos applaudissements. Bien, nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième partie.